Les nuits de France Culture.
En 1944, au Brésil, pendant que les romans régionalistes dominent le paysage littéraire, apparaît un texte étrange. Perto do coração selvagem, près du cœur sauvage en français. Il ne contient aucune problématique nationale. Au contraire, c'est une prose subjective, un flux de conscience aux accents anglo-saxons, qui est offert au lecteur. Pourtant, son autrice n'a jamais lu James Joyce, ni Virginia Woolf. Tout lui est venu de son fort intérieur, d'un instinct incomparable pour l'écriture d'une vérité perdue. Cette autrice, c'est Clarice Lispector, dont l'anonymat qui l'entourait à l'époque contraste avec son actuelle renommée quasi mondiale. Au Brésil, c'est une figure connue de toutes et de tous, dont l'œuvre est l'une des plus lues du pays. Et pour cause. L'œuvre de Clarice Lispector est extraordinairement originale, complexe et dense, jonglant entre le récit à la première personne d'une habileté virtuose et des considérations métaphysiques qui ne sont pas bridées par les règles stériles de la philosophie académique. Clarice Lispector, c'est aussi une vie romanesque, de sa naissance en Ukraine à sa vie de femme de diplomate, dont elle haïssait secrètement la mondanité superficielle. Et c'est justement de cette vie que traite le premier de deux numéros de la Compagnie des auteurs, de Mathieu Garrigou-Lagrange, avec le chercheur, professeur et traducteur Michel Riodel. Une introduction à la vie et à l'œuvre de Clarice Lispector, donc, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois le 21 juin 2017.
La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, eh bien, c'est le point de bascule de notre semaine brésilienne. Après Machado de Assis, lundi et mardi, nous passons les deux jours qui arrivent en compagnie d'un autre grand écrivain brésilien, Clarice Lispector. Quand Clarice Lispector naît en 1920, Machado de Assis est mort depuis 12 années et sa littérature, à elle, sera bien différente de celle de son aîné. Le modernisme et Virginia Woolf, notamment, sont passés par là, même si Lispector dit ne jamais l'avoir lu, l'air du temps l'aura sans doute autorisé à inventer des textes dont le 19e siècle n'aurait pas pu avoir l'idée. Nous avons donc parlé hier et lundi de ce descendant d'esclaves qui devait devenir haut fonctionnaire, de ce maître du réalisme étrange et du subtil décalage qu'était Machado de Assis. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site, celle avec Anne-Marie Métellier et Anne-Marie Quin d'une part et l'autre avec Saulo Neiva pour en apprendre davantage sur l'auteur de L'Aliéniste. Et puis demain, nous terminerons notre semaine avec un Brésil vu du Québec. Car c'est une journaliste et écrivaine de Montréal, Claire Varin, qui nous parlera de Clarice Lispector, de ses plus grands romans et de sa vision du monde. Qu'en est-il d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour une émission introductive et aussi pour retracer la biographie de Clarice Lispector, je reçois l'universitaire Michel Riodel, traducteur des grands noms de la littérature moderne brésilienne comme Milton Atum ou encore aux éditions Chandaigne Modesto Caronne, mais aussi traducteur d'écrivains classiques comme João Guimarães Rosa. Il a également coordonné, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui en particulier, le dossier Clarice Lispector, paru dans la revue Europe en novembre-décembre 2012. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des auteurs.
De onde vem esse Lispector?
Eu não sei, eu perguntei. É um nome latino, né?
Je ne sais pas, c'est, d'où vient ce nom Lispector? Je ne sais pas, c'est un nom latin, n'est-ce pas?
Desde quando havia Lispector?
J'ai demandé à mon père depuis quand est-ce qu'il y avait des Lispector en Ukraine.
Eu suponho que o nome foi Rolando, perdendo
algumas sílabas. Il ne savait pas que c'était là depuis des générations et des générations. Et le nom s'est transformé au fur et à mesure.
Lis no peito.
Jusqu'à devenir Lis no peito.
Flor de lis.
Qui est un truc qu'elle a inventé d'ailleurs. Lis comme fleur de lis.
Et quand
peito, poitrine.
Quand j'ai écrit mon premier livre.
Allegro, allegro.
Clarice Lispector, interviewée à la télévision brésilienne en 1977, est traduite par son biographe Benjamin Moser. Bonjour Michel Riodel.
Bonjour.
C'était donc la dernière interview donnée par Clarice Lispector, qui devait mourir quelques mois plus tard, mais qui était depuis longtemps devenue l'une des figures mythiques du Brésil.
Oui, elle, en fait c'est sa seule interview audiovisuelle. Il y a quelques enregistrements, mais c'est le seul document qu'on peut d'ailleurs voir sur les chaînes d'Internet.
Où elle est très belle d'ailleurs.
Et elle est magnifique, voilà.
Elle savait à ce moment-là qu'elle était malade ?
Je ne crois pas, en fait, ça s'est révélé un peu plus tard, après un voyage en Europe qu'elle a dû interrompre et voilà, on a découvert qu'elle avait un cancer et c'était sans rémission, donc là elle meurt effectivement vers la fin de l'année 77.
Donc c'est une figure mythique, son biographe Benjamin Moser dit d'elle qu'elle était le sphinx de Rio de Janeiro.
Bon, les biographes disent ce qu'ils veulent, mais c'est sûrement aujourd'hui une figure mythique. Elle l'a pas toujours été, et son parcours a pas toujours été facile, même si son premier roman, qu'elle publie très jeune finalement, à 22 ans, à la fin de l'année 1942, retient tout de suite l'attention de la critique. Les meilleures critiques décèlent là un grand auteur en devenir. Et d'autres sont un peu sceptiques, un peu réticents à une écriture qui tranche complètement avec ce qu'on a l'habitude de lire au Brésil à ce moment-là.
Dès le départ, dès le premier roman, l'écriture est très différente de ce qu'on a l'habitude de lire.
Oui, en 42, on est encore dans le roman régionaliste, une prose qui est plus réaliste, disons, que ce qu'elle a pu être dans les années 20 avec tout le vacarme moderniste, et puis une poésie qui va finir par s'assagir. On va parler de la génération de 45, donc arrive tout de suite après, plus formaliste, là aussi retour à des conventions. Et Elle n'est, enfin, ce roman Près du cœur sauvage, donc, échappe à tout ce qu'on a l'habitude de lire, parce que elle n'est pas dans des problématiques nationales, qui sont le cœur de cible, disons, de la prose, de la poésie, de la réflexion au Brésil à ce moment-là. C'est une prose très subjective, une histoire d'une gamine, Joanne. Alors on pense tout de suite, on a parlé de Virginia Woolf, évidemment. Elle ne dit pas qu'elle ne l'a jamais lu, mais qu'elle ne l'a pas lu au moment où elle écrit ce premier texte. Voilà. Le titre est inspiré de Joyce, mais elle dit qu'elle ne l'a pas lu, qu'en fait c'est un ami à elle qui lui a soufflé le titre. Luz Cardoso, qui était une passion en fait non partagée de Clarice, et qui va rester son ami jusqu'à la mort de Luz Cardoso.
Donc c'est un petit événement que la sortie de ce premier roman de Clarice Lispector, et aujourd'hui encore au Brésil, elle reste une figure très importante. Il paraît qu'on trouve ses livres jusque dans les distributeurs automatiques des stations de métro. Est-ce que vous savez si c'est vrai ?
Je l'ai pas vérifié, je l'ai pas testé, mais si vous voulez, il y a une particularité au Brésil, c'est que le système de distribution et de diffusion est très difficile. Il y a peu de librairies, c'est très concentré, donc il y a aussi une grande distribution qui se fait soit par les kiosques à journaux, soit éventuellement par les distributeurs. Donc c'est pourquoi possible. pas l'inspecteur en distributeur automatique.
En tout cas, elle est, en tout cas, son visage figure sur un certain nombre de timbres. M'a-t-on dit également au Brésil. Je ne sais pas si vous avez pu vérifier cette information. Elle aussi.
En tout cas, je vous félicite pour votre choix de programme, parce que Macha et Clarisse, vous n'avez pas épuisé toute la richesse de la littérature brésilienne, mais vous avez touché parmi les plus grands.
Mm-hmm. Est-ce que d'ailleurs, entre les deux, il peut y avoir un lien à faire?
Oui, d'une certaine façon, Macha est aussi un auteur qui est déceptif d'une certaine façon dans sa prose, puisque on ne va pas y trouver d'exotisme, on ne va pas y trouver tout ce qui fait la couleur habituelle d'une littérature brésilienne. Et Clarisse aussi, c'est pas du tout quelqu'un qui va chercher le, même si on a un enracinement très très profond, social, du Brésil, mais c'est pas ce qu'elle travaille.
Donc on est dans une littérature brésilienne qui est en fait un dérivé, selon vous, de la littérature européenne?
Vous savez, toute littérature est dérivée des autres littératures, et la littérature européenne n'échappe pas à la règle. Elle aussi est dérivée, les auteurs contemporains comme les Balzac, etc. Voilà. Donc, oui, tout est dans tout.
Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Clarisse Lispector avec Michel Riodel. Alors on s'intéresse maintenant à la biographie de Lispector, parce qu'elle n'est pas sans intérêt ni sans conséquence. Et d'abord, il faut dire qu'elle est née en Ukraine, la patrie de ses parents, dans un tout petit village qui s'appelait Tchetchelnik, en Podolie, où elle a passé alors quelques mois. Elle dit que c'est 2 mois. Est-ce que c'est pas un peu plus?
Oui, alors voilà, déjà une première raison de s'intéresser à la biographie de l'inspecteur, c'est qu'on a des versions différentes, et qui fait que par exemple son premier roman dont on parlait à l'instant est attribué soit à une jeune fille de 18 ans, soit à une jeune fille de 20 ans, ou voire de 22 ans.
Elle-même ne s'est pas exprimée là-dessus.
En fait, dans les années 30, au moment où elle entame des démarches de naturalisation au Brésil, elle donne des informations qui sont fausses, mais bon, on peut pas dire si c'est intentionnel ou pas. En tout cas, ça va troubler un petit peu la chronologie de l'œuvre. Mais aujourd'hui, la première biographe, Nadia Gottlieb, a établi clairement qu'elle était née en 1920. Et donc, elle n'arrive pas à 2 mois, mais à 2 ans au Brésil. Ce qui est intéressant, peut-être, c'est qu'elle se brésilianise un peu plus en disant qu'elle arrive à 2 mois. Et je pense que dans la trajectoire de la famille, elle a 2 autres sœurs, dont une qui va aussi publier, Elisa Lispector. Et Elisa Lispector est beaucoup plus attachée à sa judaïté, à ses racines, alors que Clarisse, elle, bien qu'elle ait grandi dans un milieu juif, elle est reçue par la famille de ses parents, enfin, à Maceió, puis à Recife. Elle va même fréquenter à un moment une école juive. Son œuvre n'est pas du tout marquée, en surface, en tout cas, par ça.
Il y a comme plein si elle avait voulu, justement, comme vous dites, se brésilianiser et donc oublier son enfance, ses 2 années passées en Ukraine.
Voilà, le par exemple, cette légende sur son nom qu'elle construit, qu'elle latinise, ça peut renvoyer à ce processus qui est pas forcément un processus calculé, hein, mais il y a aussi toutes les références au Nouveau Testament, par exemple, qui sont intéressantes. À mon avis, il y aurait toute une étude à faire en profondeur sur une influence des marques de judaïté, mais qui ne sont absolument pas celles de la surface et qu'aujourd'hui on a un peu tendance à traquer de façon un peu futile, je pense. C'est Clarisse n'est ni une écrivaine féministe déclarée, ni une écrivaine qui se revendique de la communauté juive, comme ça peut être le cas d'autres auteurs comme Scalia, mais il n'empêche que elle a à voir avec le féminisme, elle a à voir avec la judaïté de façon beaucoup plus subtile.
En tout cas, en France, ce sont les éditions des femmes qui l'ont fait connaître, et c'est peut-être pour ça qu'on la voit avant tout comme un écrivain féministe.
Et il faut saluer le travail persistant des éditions des femmes qui, cela dit, la réception française de Clarisse Lispector ne commence pas avec les éditions des femmes. Ça commence en 54, très tôt en fait, avec l'édition Plomb, qui traduisent une première fois Près du cœur sauvage. Et Clarisse, à ce moment-là, je dis Clarisse parce qu'au Brésil, on a l'habitude d'appeler les gens, et en particulier Clarisse Lispector, par le prénom. Clarisse néglige un peu cette réception à ce moment-là. Elle va se rendre compte un peu plus tard que finalement le travail de la traductrice qu'elle critiquait un peu est un travail très sérieux. Il y a une autre édition en 70 de Gallimard, et Gallimard, de façon très très intéressante, va donc le roman que Gallimard publie, c'est Le bâtisseur de ruines en français, Amasan Mouescourt, La pomme dans le noir, et Gallimard engage une nouvelle traduction qui finira par ne pas publier, et c'est les éditions des femmes qui vont prendre le relais. Voilà.
Ton père faisait quoi professionnellement? Il était représentant de commercial. Tandis que ce qu'il faisait vraiment, c'était servait vraiment pour les affaires de l'esprit.
Eu soube ultimamente, para minha enorme surpresa, que minha mãe escrevia.
Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans votre famille qui écrivait?
Não publicava.
Moi, j'ai appris récemment, par ma grande surprise, que ma mère écrivait des poèmes.
Alors tout de même, Michèle Riodel, il faut dire un mot, même si elle a peut-être cherché un peu à oublier ses origines ukrainiennes et juives, il faut dire un mot de la raison qui fait que ses parents émigrent dans des conditions assez terribles. Pour le Brésil, où les pogroms, les pogroms ukrainiens, font qu'ils sont chassés. Ils ont une forme de chance parce qu'ils ont réussi finalement, eux, à émigrer. Ce n'a pas été le cas pour beaucoup des Juifs d'Europe de l'Est.
Oui, oui, c'est une trajectoire douloureuse. En fait, Clarisse Lispector naît au cours de cette migration de la famille qui fuit les pogroms et qui veut aller en Amérique. Le destin n'est pas au départ complètement fixé, ça sera finalement le Brésil. Alors les lectures aujourd'hui, en particulier celle de Benjamin Moser, insistent beaucoup sur ce moment et tout ce qui entoure ces circonstances-là comme un moment fondateur qui pourrait expliquer l'œuvre.
Et notamment ce qui est arrivé à la mère de Clarice Lispector, qui donc a été violée à cette occasion-là, pendant ces pogroms.
Oui, sans doute.
Ça vous semble pas aussi important que ce que Benjamin Moser...
C'est difficile de déterminer ce qu'est une œuvre à partir d'événements aussi tragiques que sont-ils de l'enfance. Voilà. Est-ce que tout enfant qui a une mère violée devient Lispector? Est-ce que tout enfant qui fuit les pogroms devient Lispector? Voilà. Bon, je pense que il y a bien sûr des facteurs qui permettent de lire, mais je pense que Lispector a aussi beaucoup d'autres choses à nous dire.
Voilà. Mmh. Alors, il y a quand même le fait, pardonnez-moi d'insister, que la mère de Clarice Lispector aurait attendu un enfant, aurait fait un enfant pour se soigner de la syphilis qui lui avait été transmise au cours de ce viol. Et Clarice Lispector aurait, toujours au conditionnel, porté le poids, finalement, du fait qu'elle n'a pas réussi à soigner sa mère, puisqu'évidemment, avoir un enfant n'a jamais... soigner quiconque de la syphilis.
Mmh. Oui, alors on peut penser que la vocation de l'écriture qui vient très tôt à Clarice Lispector est une sorte d'héritage de mission qu'elle reçoit et des traumatismes de la famille et de cette vocation d'écrivaine ou de poète qu'elle découvre très tardivement de la mère. Voilà, tout ça sont peut-être des non-dits, des refoulés familiaux qui ressortent à travers une œuvre magnifique.
Alors, il faut dire quand même que Clarice, Lispector Clarice, comme on dit au Brésil, ça n'est pas son nom de naissance. Son naissance, c'est Chaya Pinkasovna Lispector. Ce changement de nom a-t-il une importance, selon vous, Michel Riodel?
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a une christianisation, en quelque sorte, des prénoms de deux des sœurs, de deux filles de la famille Lispector.
Et des parents aussi, d'ailleurs.
Clarice et des parents. On notera que, par exemple, les deux enfants, les deux garçons qu'a Clarice plus tard, en 48 et en 53, s'appelle Pedro et Paolo, Pierre et Paul. Ce ne sont pas non plus des noms qui renvoient à un univers juif ou autre. Ce sont des noms très chrétiens. Voilà. Il se trouve que Clarice va garder ce nom donc, essayer de se fondre, en fait, dans le paysage. On parlait tout à l'heure de la première réception du premier roman de Clarice, Près du cœur sauvage. Les résistances pointent le caractère un peu étrange et étranger de cette prose.
Étranger par rapport à quoi?
Voilà, c'est pas dans les thématiques, mais Clarice Lispector avec ses origines, etc. Donc c'est quelque chose qui détonne dans le paysage, au sens propre comme au sens figuré. Et je crois que ce souci de se fondre trouve toujours ou en tout cas a trouvé longtemps une certaine résistance chez le public brésilien très troublé par son écriture.
J'ai grandi à Recife, disait-elle, et je pense que vivre dans le nord-est ou le nord du Brésil, c'est vivre intensément et de plus près la véritable vie brésilienne. Une vie qui est aussi proche, à ce moment-là, dans sa jeunesse, des animaux. Et il y aura beaucoup d'animaux, y compris des animaux pas très agréables et pas très ragoûtants, comme les blattes, dans l'œuvre de Clarice Lispector. Ça vous semble aussi quelque chose à souligner ?
Oui, enfin, je ne sais pas ce que vous insinuez. Si vous voulez dire qu'on est proche des animaux quand on vit dans le nord-est brésilien, on est proche des animaux quand on va au zoo de Berne aussi.
C'est plutôt la question de la place du royaume animal dans l'œuvre de l'inspecteur. Alors, donc il y a évidemment la blatte, mais il y a aussi la poule.
Je vous taquine, mais c'est très important. Vous avez tout à fait raison. En fait, bon, elle vit dans le nord-est, Maceió, Recife, jusqu'à l'âge de 15 ans. Son père va finalement emmener sa famille à Rio. Mais je pense que c'est pas le nord-est, ni Rio, ni qui détermine ce rapport à l'animal. Le rapport à l'animal, c'est un rapport à quelque chose de très profond en nous, de très enfoui. Il y a eu toujours dans les textes de Clarice Lispector une expérience avec l'archaïque, avec parfois ce qu'elle appelle le neutre, et ce contact avec, qui peut être un animal, qui peut être un rat, qui peut être un œuf, qui peut être une poule, qui peut être un buffle, qui peut être un aveugle.
Un aveugle.
Un aveugle, oui, une des nouvelles Amours, magnifique nouvelle de lien de famille, le personnage est troublé par le fait qu'elle croise le non-regard d'un aveugle.
Mmh. Enfin, on n'est plus dans la même thématique, du coup, tout d'un
coup. On n'est plus dans la même thématique, mais quand même, on est dans cette expérience où, tout à coup, ce sur quoi on s'appuyait, les codes, les références qui nous structurent et nous réconfortent, est absent. Mmh. Et du coup, nous déstabilise, nous enfonce dans une expérience complètement abyssale et de quête de soi, d'interrogation. Et c'est ça, l'animal aussi, c'est ça.
Comment vous avez commencé à lire? Avant d'avoir 7 ans, je commençais à raconter des fables, des petites histoires. C'est très compliqué d'expliquer cette histoire. Quand j'ai commencé à lire, j'ai commencé à écrire aussi.
Quand à jovem, praticamente adolescente, Clarice Lispector, descobre que realmente é a literatura.
Quand la jeune Clarice, adolescente, découvre que c'est la littérature qui la crée le plus, est-ce que vous aviez quelques objectifs spécifiques?
Apenas escrever.
Non, juste écrire.
Você podia nos dar uma ideia do que era a produção?
Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que c'était Clarice la production de l'adolescente Clarice Lispector?
Intense.
Chaotique, intense.
Entièrement hors de la
réalité. Entièrement hors de la réalité de la vie.
Alors, dans la chronologie de votre dossier de la revue Europe sur Clarice Lispector, Michel Riodel, on peut lire qu'elle a écrit une pièce en 3 actes après avoir assisté à une représentation théâtrale alors qu'elle n'avait que 10 ans. Une pièce qui s'intitule « Pobre Menina Rica »,« Petite fille, pauvre, riche ».
Voilà, « Pauvre petite fille
pauvre
riche ».
Pauvre petite fille riche, pardonnez-moi. Ouais. Est-ce que c'est de l'anecdote ou est-ce que ça peut signifier quand même quelque chose?
Je pense que ça montre un intérêt très très précoce pour l'écriture. Je pense que l'écriture chez Clarisse c'est quelque chose de vital, et c'est quelque chose de vital dès son enfance. Alors justement, elle envoie des textes dans la presse locale qui ne sont quasiment jamais publiés. Et ça aussi, ça, je pense que ça doit marquer cet enfant qui a le sentiment qu'elle n'est pas adaptée, qu'il faut qu'elle trouve le langage qu'on va accepter finalement de publier. Et ça tient sans doute. On a perdu ces textes, aussi à quelque chose qui est tout à fait inclassable, une écriture qui est inclassable, qui.
Et ça dès le départ.
Dès le départ, je pense. Et bon, cette pièce de théâtre. Vous parliez des influences, ben voilà, elle écrit sous influence, mais sans doute avec quelque chose de très très personnel déjà, et toujours entre le récit, la poésie, la réflexion, la chronique, l'essai, c'est ce mélange-là qui fait aussi toute l'originalité et la force de l'inspecteur.
Est-ce qu'on doit prendre en compte aussi le contexte politique au Brésil pendant la jeunesse de Clarisse Lispector ? Alors, on n'a pas dit qu'elle perd sa mère quand même assez tôt, hein, quand elle a à ses environs d'âge, 10 ans, 13 ans peut-être. Donc, elle vit avec son père, et c'est à ce moment-là à peu près aussi qu'arrive au pouvoir Getúlio Vargas. Est-ce que ça a une importance ou est-ce qu'elle est très loin durant sa jeunesse, de l'atmosphère politique du pays?
Alors, je pense que ça a une importance, voire plusieurs importances, disons. La première, c'est que ce moment des années 30, avec l'arrivée de Vargas, et je dirais de plusieurs Vargas, parce que il y a un premier coup d'État, il y a une espèce de coup d'État dans le coup d'État en 37, mais déjà d'autres signes avant-coureurs de la radicalisation avant. En tout cas, ces années-là, les années 30, c'est une période de refondation du récit national, de comment le pays se raconte, quelle histoire il se donne. Et c'est aussi pour ça que c'est très important dans le modernisme et dans le roman qui va suivre, donc celui qu'on dit des années 30. Clarisse Lispector, elle n'est pas du tout dans ce bain-là, disons. Hein. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est dans un contexte, disons, de tension internationale, où déjà il y a une immigration juive dans les années 30 de l'Europe de l'Est, des pays de langue allemande, etc. D'où le souci aussi du père de la naturalisation, puis de la naturalisation de ses enfants, de se stabiliser dans ce pays qui est à l'abri des conflits européens.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Michel Riodel, on va reprendre dans quelques minutes cette conversation sur Clarisse Lispector, mais d'abord, je vous présente, ou je ne vous présente pas, car peut-être et même sans doute le connaissez-vous, Michel Crépu, directeur de la NRF, qui s'est installé en face de vous. Michel Crépu, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Avez-vous un roman préféré de Clarisse Lispector ?
Non, parce que je ne connais pas bien Clarisse Lispector, mais je suis extrêmement intrigué par cette œuvre. J'aimerais beaucoup savoir, par exemple, qui chez Plon en 54 a sonné l'alerte.
Ben Michel Riodel a peut-être la réponse.
La réponse précise, non. Ouais. Mais disons qu'il y a un intérêt pour la littérature latino-américaine dans l'après-guerre. Il y a d'autres auteurs qui ont traduit plus. Clarisse, du coup, bénéficie d'une attention tout à fait exceptionnelle. Le roman a paru il y a 11-12 ans à ce moment-là. C'est une traduction très précoce, effectivement.
Ouais. Donc beaucoup de curiosité.
Oui, beaucoup de curiosité. Je pensais aussi, en écoutant la conversation, à Gombrowicz. Autre exemple d'Européens qui débarquent dans le continent sud-américain. Alors pour Gombrowicz, c'est l'Argentine. Mais d'une certaine façon, il y a une similitude dans l'expérience, sans forcer, mais j'aime bien forcer un peu les rapprochements.
Une similitude, très rapidement, Michel Riodel.
Oui, encore que Gombrowicz arrive en Européen, en Argentine.
Il n'arrive pas à deux ans.
Oui, mais chez les deux, il y a une perception du monde inconnu. Enfin, le monde européen est par essence un monde familier, et le monde qu'incarne le Brésil est un monde qui échappe, c'est le monde sauvage.
Et du coup, un regard décalé.
Il
faut vraiment qu'on fasse une semaine sur Gombrowicz. Alors, vous voulez nous parler, je crois, Michel Crépu, de Gada, l'italien Gada, qui est à la une de la NRF, c'est ça ?
Alors, on l'évoque, Philippe Bordas, pardon, j'allais confondre, évoque l'œuvre de Gada, qui a fait l'objet de retraductions récemment. Et Philippe Bordas, qui est un grand lecteur de... Ça nous ramène encore à des questions de sauvagerie et d'inconnu et d'Europe. Philippe Bordas, c'est un grand amateur de Saint-Simon, s'est intéressé à Gada parce qu'il peut-être il trouvait ou ça excitait sa curiosité de lecteur d'aller chercher entre Saint-Simon et Gada non pas des parentés qui n'auraient aucun sens, mais une certaine expérience du langage qui est très baroque. Au fond, c'est une réflexion sur le baroque, cet article.
Également dans la NRF, un article cette fois sur Pierre Guyotat. On imagine que c'est au sujet de ses derniers romans parus chez Gallimard.
Voilà, il y a deux ouvrages, Par la main dans les enfers et Joyeux animaux de la misère, qui sont les deux derniers grands livres de Guyotat. Et Philippe Blanchon, qui a écrit cet article, je l'ai retenu parce que c'est très rare de lire de bonnes choses sur Guyotat. On est très vite dans le cliché, on est très vite dans la mythologie de l'écrivain maudit, le dernier à avoir été censuré, etc. etc.
Mythologie qu'il entretient quand même assez savamment.
Mythologie à laquelle il est loin d'être étranger. Mais il y a une possibilité, et c'est ce que cet article de Philippe Blanchon montre très bien, une possibilité d'approcher calmement ce que Guyotat essaye de faire avec la langue française. C'est quelqu'un qui repasse par le latin, qui a une expérience du XVIe siècle, de Rabelais, et plus loin encore. Et donc, que Philippe Blanchon arrive à s'introduire, si je puis dire, dans la forêt guyotienne, je pense que c'est intéressant pour le lecteur. Même si on n'a pas envie de lire Guyotat.
Voilà, donc ça c'est dans la NRF de cet été de la plage alors.
Non, parce qu'il y aura un numéro.
Ah, il y en aura un numéro de plage.
De juillet, bon. Réservez votre.
Et vous prenez pas de vacances, Michel ?
Si, mais moi je prends toujours des vacances.
Bon, à bientôt alors, à la rentrée.
À bientôt.
Compagnie des auteurs reprend sa route brésilienne, entamée lundi et mardi avec Machado de Assis, et qui se poursuit aujourd'hui et demain avec Clarisse Lispector. Je suis en compagnie du traducteur et universitaire Michel Riodel. Alors que voici en archive l'une de celles qui a le plus fait pour faire connaître Lispector en France, Hélène Cixous.
Au passarinho. C'est une écriture de douleur, enfin c'est vraiment, c'est un monde de douleur, c'est un monde, enfin elle voit le monde comme il est, et comme il est là où elle est. Et là où elle est, c'est un monde qui n'a pas les décences que notre monde a, c'est-à-dire c'est un monde cruel, c'est certain monde. Enfin, c'est le Brésil, fou, riche, misérable, sous-développé, cruel. Mais je pense que ce qu'elle a dû voir, et ce qu'elle fait passer dans ses textes, c'est l'éclat, si on peut dire, de la misère. Cette misère, que ce soit la misère sociale, réelle, enfin, ou bien ce qui fait que dans chaque être humain vivant, il y a quelqu'un qui est aussi un mendiant, un mutilé, un aveugle, etc., même si nous sommes riches, c'est ça qui est lisible partout dans ces textes. C'est justement que le monde, finalement, n'a ni esthétique, ni morale, qu'il obéit vraiment aux lois du vivant, quoi, au travail de la mort.
Cette idée d'un monde qui n'a ni esthétique ni morale, vous pourriez la reprendre à votre compte, Michel Riodel, parlant de Clarice Lispector.
Oui, je pense que s'il y a un point essentiel, enfin il y en aurait beaucoup, mais très important autour duquel se structure l'œuvre de Clarice, c'est l'idée que personne n'est innocent, en fait, voilà. On n'est pas innocent, qu'il n'y a pas de pureté. Et c'est justement ce processus qui est à l'œuvre dans les histoires de Clarice. Cette découverte que il n'y a pas de plancher vraiment qui nous soutienne et que tout passe par une expérience de la souffrance, du mal qui déstructure nos accommodements et nos petits conforts quotidiens.
Mmh. Et ça, Hélène Cixous l'a montré avant d'autres, mieux que d'autres.
Je crois qu'elle a, Hélène Cixous, a une lecture très sensible de Clarice Lispector. Et là aussi, en France, on doit beaucoup à des gens comme elle, à Hubert Join aussi, disparu très tôt, mais qui avait été très attentif à l'œuvre de Lispector. Ouais.
Son essai s'appelle toujours d'ailleurs « L'heure de Clarice Lispector ». Il a été écrit à partir d'un roman. Un roman posthume, L'heure de l'étoile.
Alors, c'est pas un roman posthume, c'est le dernier, en fait, roman qui paraît 2 mois avant sa mort, et qui est un petit roman ou une grande nouvelle. Je parle de la taille, là, et qui est un texte tout à fait magnifique, abouti. Enfin, vous demandiez à Michel Crépu tout à l'heure des titres, un titre, voilà, ça pourrait être un des titres. À lire absolument
pour quelle raison
de Lispector. Pardon.
Qu'est-ce que ce livre a, selon vous, de plus que les autres?
Oh, de plus, je sais pas. Il y a La Passion selon GH, qui est un magnifique texte. Le premier, ses nouvelles sont tout à fait extraordinaires. Mais dans L'heure de l'étoile, en fait, où déjà on a une brièveté, on a une densité et un récit qui joue avec le lecteur, qui est aussi très ludique. On prend Lispector toujours par le côté grave, sérieux, angoissé, des grandes questions ontologiques et métaphysiques, mais il y a aussi de l'humour, c'est pas du tout incompatible. Il y a un côté grotesque, clownesque, il y a parfois de l'ironie dans certains textes, et dans celui-là, Hélène Cixous parlait des rebuts, des gens oubliés, des marginaux de la société. Cette héroïne, il y a plusieurs auteurs et plusieurs héros, personnages dans cette histoire, mais le personnage central qui s'appelle Maccabée est une nordestine qui n'a quasiment pas d'existence. Le héros, avec toute le narrateur, je veux dire, avec toute sa suffisance, Rodrigo S.M., dit voilà, elle est, mais elle n'a pas d'existence. Hein. Et pourtant, c'est elle qui porte toutes les interrogations et qui nous amène à quelque chose de l'ordre de la vérité de l'être.
Alors reprenons le fil chronologique qu'on a un peu abandonné. Après la mort de son père, Clarisse, hein, moi aussi je vais l'appeler Clarisse, devient journaliste. Elle est dans un organisme qui est lié finalement au secteur de la propagande du gouvernement de Vargas, dans l'Agencia Nacional, l'agence nationale, qui inonde vraisemblablement en informations plutôt élogieuses les Brésiliens et les organes de presse brésiliens, des informations élogieuses sur le gouvernement. Le journalisme, cependant, ça n'est pas totalement anodin chez Clarice Lispector. Elle en a une utilisation qui lui permet peut-être de travailler sa langue, au premier chef, Michel Riodel.
Oui. Alors, d'abord, pour que les auditeurs ne se fassent pas une idée fausse, elle travaille dans un organisme de propagande, mais elle ne sert pas à la propagande. Il faut savoir que à ce moment-là, bien des intellectuels, y compris ceux qui ont eu à pâtir de ce gouvernement Vargas, vont pour pour gagner leur vie, tout simplement, écrire dans ces agences ou ces organes de presse, ce qui ne signifie pas du tout une soumission à une quelconque idéologie. Donc, la question sur le journalisme, oui, c'est effectivement très important. En fait, on connaît et on Lispector est Lispector parce qu'elle a écrit les nouvelles, les grands romans dont on a déjà parlé, mais aussi parce que elle a fait cette expérience du journalisme qui l'oblige à travailler une écriture plus directe, plus claire, plus transparente, plus en dialogue aussi avec le lecteur. Donc elle est amenée, disons, à élaborer, à mûrir son écriture pas à travers l'expérience du journalisme, qui est parfois de circonstances, parfois par obéissant à des nécessités de survie, en particulier quand elle se sépare de son mari.
Qui était diplomate, on ne l'a pas encore dit.
Voilà,
Elle
a une vie un peu nomade, disons, de la publication de son premier roman, donc fin 42, à 59, si je ne m'abuse, au moment où elle va se séparer de son mari. Et elle a vécu donc en Italie, en Suisse, elle a beaucoup voyagé en Europe, elle a passé 7 ans aux États-Unis également.
Elle va pas aimer tellement, finalement, cette vie à accompagner son mari aux quatre coins du monde.
Oui, bon, je pense que elle revient régulièrement au Brésil. Bon, en même temps, c'est évident que c'est une expérience qui forge une partie de ses références, qui lui fournit des matériaux pour l'écriture. Mais elle est très attachée à un groupe d'amis qui la soutient, un groupe d'écrivains, d'intellectuels qui vont dans la période plus difficile qui, disons, est celle des années 50, fin des années 40-50, où la reconnaissance n'est pas là. En fait, après le coup de maître du premier roman, les choses sont plus difficiles. Eh bien, ils sont là pour l'encourager, pour la publier éventuellement et l'aider à percer. Oui.
Qu'est-ce qu'on sait de la façon dont elle écrivait ? Parce que, bien qu'on ait le sentiment parfois à la lecture que tout soit écrit comme ça d'un seul jet, parce qu'il y a une dimension immédiatement psychologique à un certain nombre de ces récits, on a le sentiment que l'inspiration est directement transcrite sur le papier. En réalité, elle-même disait « Que nul se méprenne, je n'atteins la simplicité qu'à force d'un long travail ». Est-ce que vous savez, vous, de quelle manière elle envisageait le travail de ses romans ?
Alors, les trois premiers romans, elle les écrit finalement assez vite, entre un et deux ans, disons, peut-être même plus court pour le premier. Le quatrième, donc celui qui va paraître, qui va être traduit par Gallimard en 70, le bâtisseur de ruines, elle le porte une bonne dizaine d'années. Mmh. Donc là, on sent que après les demi-échecs de des deuxième et troisième romans, La ville assiégée et un autre qui m'échappe là, mais elle cherche une écriture, un récit, et ça sera beaucoup plus laborieux. On voit bien que, par exemple, le titre évolue beaucoup de ce projet de livre. Cela dit, entre-temps, elle écrit des nouvelles. En fait, on a peu de manuscrits de Clarice Lispector. Il y a dans cette collection Archives, là, qui publie les grands classiques de la littérature latino-américaine du XXe siècle, et qui en général s'appuie sur des documents pour faire des éditions génétiques. Benedito Nunes avait très peu de matériaux pour éditer La Passion selon Gerhardt, par exemple. Donc il y a peu de manuscrits. Cela dit, c'est probablement écrit par Brie. On le voit aussi dans la façon dont elle réutilise des extraits, des passages dans d'autres œuvres.
Et y compris parfois du journalisme vers la fiction.
Je suis fatiguée. Ma fatigue vient beaucoup parce que je suis une personne extrêmement occupée. Je prends soin du monde. Tous les jours, je regarde de la terrasse le morceau de plage avec la mer et je vois les épaisses écumes plus blanches et que pendant la nuit, les eaux ont avancé, inquiètes. Je le vois à la marque que les ondes laissent sur le sable. Je regarde les amandiers de la rue où j'habite. Avant de dormir, je prends soin du monde et je vois si le ciel de la nuit est étoilé et bleu marine, car certaines nuits, au lieu d'être noir, le ciel paraît bleu marine intense, couleur que j'ai déjà peinte dans un vitrail. J'aime les intensités. Je prends soin du gamin qui a 9 ans et qui est vêtu de haillons et squelettique. Il aura la tuberculose s'il ne l'a pas déjà. Au jardin botanique, alors, je suis épuisée. Je dois prendre soin du regard, de milliers de plantes et d'arbres, et surtout de la Victoria Regia. Elle est là, et je la regarde. Et tout se acabar na quarta-feira.
Tristeza não tem fim. C'était Pascal Casanova qui lisait ce texte de Clarice Lispector. Quand retenez-vous, Michel Riodel ?
Je pense qu'il y a une attention au monde, au monde très, très prosaïque, pour commencer.
Qui est une caractéristique, ça, de Lispector ?
Disons que c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Et dans les années 50, 60, où la littérature et les écrivains s'engagent volontiers, notamment dans un contexte politique très, très tendu, on reproche parfois à un Clarice Lispector un effacement, ce qui la blessait beaucoup, et je pense qu'elle avait le sentiment, avec raison, que elle parlait aussi de son monde. On parlait de Maccabée, mais la passion selon GH, c'est la découverte de la chambre de la bonne.
C'est important que ça se passe dans la chambre de la bonne et pas ailleurs.
C'est très important, bien sûr, c'est très important. Je pense que l'heure de l'étoile, c'est aussi une réponse à cet engagement qu'on lui demandait. Donc ça, c'est pour ça que je dis, voilà, il y a une attention aux enfants, et puis à quelques éléments, ce grand nénuphar là, cette Victoria Hedge. Qui sont des moments, comme on le disait tout à l'heure, qui vont faire remonter à la surface des choses enfouies, archaïques. J'ai en tête aussi ce texte là, cette chronique qu'elle écrit sur la mort de Minerino, cet ennemi public numéro un, tué de 13 balles par la police, où le texte renverse l'ordre finalement, en montrant que la police n'a pas fait acte de justice.
Parmi les choses archaïques, et on terminera peut-être là-dessus, sur ce thème en tous les cas, il y a le spectre de la folie. On sait que son fils a été schizophrène, diagnostiqué comme tel. Peut-être qu'elle aussi avait peur d'être un jour, non pas diagnostiquée schizophrène, mais d'approcher quand même ces rivages de la folie. Qu'en pensez-vous, Michel Riodel ?
Oui, alors effectivement, son premier enfant est marqué par cette épreuve et elle suit cela évidemment toute jusqu'à sa disparition en 77. Je pense que il y a la folie, peut-être il y a quelque chose de l'ordre du mystère. Clarice Lispector était quelqu'un qui cherchait des choses, qui cherchait des réponses, qui se à travers l'écriture, qui va à un congrès de sorcellerie par exemple.
Et ça, c'est peut-être une manière de chercher des réponses. Merci Michel Riodel. Je rappelle que vous avez donc dirigé la publication d'un dossier spécial concernant Clarice Lispector dans le numéro novembre-décembre 2012 de la revue Europe. Demain, pour terminer notre semaine brésilienne, nous serons avec Claire Varin en duplex depuis Montréal pour continuer de parler de la femme et de l'œuvre. Mais avant cela, c'est Jacques Bonafé. Il poursuit sa lecture des poèmes de Rony Sommeck.
Bonjour. Les poètes sont oculistes, nous dit Rony Sommeck dans Le piano ardent. Les poètes sont oculistes quand ils dilatent la prunelle du ciel, la plume tombe du ventre de l'oiseau blessé au piège du ver. D'où vient cette inspiration curieuse? Rony Sommeck est un poète israélien né à Bagdad. Il est traduit de l'hébreu par Michel Ekar Elial. Les poètes sont orthopédistes quand ils détachent la colonne vertébrale de l'oiseau. Leurs doigts de voleurs escaladent la gouttière des vertèbres sur la façade du dos. Les poètes guérisseurs cherchent le mot pour réduire la voix des oiseaux à un solo de flûte. Le mot mord la langue des poètes dentistes. Pour d'autres poètes, les mots sont toujours la pommade étalée sous le pansement, comme un oiseau de métaphore sur la griffure de l'éternité. Au coude du poème. Autre poème. La fille hurle, c'est un état de circoncis. Les petits, on les coupe, tandis que les grands mangent des gâteaux. La sueur des chevaux de la police stagne dans l'air. La Jérusalem de 1972, la tête trempée de cheveux malicieux à froid, et la fille habillée de peau de mouton manifeste pour les panthères noires. Rien n'a changé depuis dans la ville. Les menuisiers enfoncent des clous de miséricorde sur les bancs de l'agence pour l'emploi. le pain brille dans les fours, d'autres, aux yeux lourds de fusils de chasse, oublient toujours les balles à la maison. Et la fille, comme dans une longue marche, l'épaule fait mal, le front labouré de rides, et dans les jambes se déploient les muscles de l'oubli. Dans le recueil, plusieurs poèmes sont adressés à la fille, et il y a aussi « Discours du père au soupirant de sa fille ». Vous qui bientôt prendrez sa main pour l'emmener où bon vous semble, n'oubliez pas les leçons de piano que ses doigts ont connues à l'âge de 9 ans, les paniers empoignés sur le chemin du filet de basket qui filtrait les rêves, et les pansements sur la blessure imaginaire au bout de l'orteil. Représentez-vous en imagination sa main comme un triangle d'or dont les côtés sont Karim Abdul-Jabbar, Mozart et Dieu, et quand vous verrez son doigt pointé sur la lune, regardez bien ce doigt. Lettre du prisonnier R.S. Ronny Somek à la direction pénitentiaire. L'amour est une mutinerie de prisonniers dans la prison du corps. S'il vous plaît, ne réduisez pas le tiers de ma peine pour bonne conduite.
C'était un numéro de la Compagnie des auteurs de Mathieu Garrigou-Lagrange avec Michel Riodel, consacré à Clarice Lispector et diffusé pour la première fois le 21 juin 2017. Réalisation Laurence Millet.